Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 20.
Assemblée, réunie ensemble, tout entière, comme nous l'avons au verset 23. Ce qui lui est propre, ce qui est normal, c'est que Dieu est là. Dieu est véritablement parmi vous. Voilà ce que le simple ou l'incrédule devait reconnaître lorsque tout fonctionnait normalement dans l'assemblée. Mais ce qui demeure, malgré et nos insuffisances, nos infirmités, nos faiblesses, nos manquements, l'état de l'assemblée de l'Église en général et de toute expression d'elle-même que ce soit, c'est ce que Dieu a établi, et cela pour le bien des siens, et pour le témoignage qu'il veut qu'il soit rendu sur la terre à celui qu'il a établi, le Seigneur. Et ce sentiment est que Dieu est au milieu de vous, au milieu de nous rassemblés, doit être éprouvé dans toute sa force, mais dans toute sa réalité. Il y a la présence du Seigneur, Jésus, sa présence personnelle, quoique invisible, celle qui est promise aux deux ou trois rassemblés en son nom. Et il y a la présence du Saint-Esprit. Si Dieu est présent parmi vous, au milieu de vous, c'est par son esprit, c'est comme le Saint-Esprit agissant dans l'assemblée, encore une fois pour le bien de tous, mais pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est lui qui a l'autorité pour, par du Saint-Esprit, pour diriger, pour conduire les esprits, pour que tout soit donné, que tout soit reçu, comme lui-même le veut, selon la pensée divine elle-même. Et l'exercice des dons, sujet qui nous a occupé hier, se fait sous cette direction. Et il y a non seulement la puissance du Saint-Esprit, mais qui pouvait produire des dons frappant les esprits et tous ceux qui étaient là, comme les dons des langues, et il y a les dons relatifs à la communication des pensées de Dieu par la parole, mais appliquée par cet esprit. Et tout cela doit se faire dans l'amour, ne peut avoir d'efficacité que dans l'amour, et dans cette intelligence que l'Esprit lui-même éclaire, mais qui est après tout un instrument humain, une faculté humaine employée ainsi par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous avons pu considérer hier d'une manière particulière. Chaque don employé à sa place. Mais l'assemblée tout entière, et chacun dans l'assemblée, chacun à sa place, étant non point passif, inerte, inactif, mais fervent en esprit, pour que tout se déroule selon la pensée du divin conducteur. Voilà ce qui est placé devant nous. L'apôtre ne dit pas que ceux qui avaient le don des langues, un don qui leur apparaissait comme quelque chose de supérieur, de merveilleux, et qu'ils se plaisaient à étaler dans lequel, hélas, la chair trouvait son compte, sa vanité, étant flattée comme possédant une puissance extraordinaire. Ce don, il n'est pas interdit. L'apôtre ne donne pas de commandement pour qu'il ne soit pas exercé, mais qu'il le soit de telle manière que l'assemblée soit édifiée, que tous fassent pour l'édification, et par conséquent, que ce qui est prononcé dans une langue incompréhensible par les auditeurs soit interprété. Et cela même doit être fait de par l'esprit, c'est un don de l'esprit. Mais la supériorité de la prophétie, de la communication, de la pensée de Dieu et de la parole de Dieu, selon le moment, les besoins, les circonstances et l'enseignement, don du docteur, tout cela est quelque chose de bien supérieur. C'est cette comparaison qui a occupé la plus grande partie du chapitre jusqu'ici, et que nous retrouvons particulièrement dans ces versets 20 à 25. L'apôtre exhortant à ce que tout se passe normalement, c'est-à-dire par des gens adultes, des hommes faits, et non pas des enfants, avec bon sens, avec sagesse, avec intelligence, aussi bien que par la puissance de l'esprit.
Donc, dans ce chapitre 14, nous avons deux grands sujets. Le premier sujet, jusqu'au verset 19, et le deuxième, depuis le verset 20, à la fin. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons le grand sujet de l'exercice des dons, comme les frères l'ont dit souvent la semaine passée, et on vient de l'entendre, l'exercice des dons. Et l'apôtre parle d'une façon particulière du don des langues et du don de prophétie. Ce don des langues, qui était un don signe, qui était un don miracle, qui était un don qui impressionnait les frères. C'était un don merveilleux, certainement, mais c'était un don auquel on attachait une importance excessive parce que il donnait de l'importance à celui qui l'exerçait. Alors l'apôtre de montrer que le don des langues aura sa fin. Y a-t-il des langues, a-t-il dit au chapitre 13, elles auront leur fin. Et de montrer l'importance d'un autre don qui continue et qui continuera jusqu'à la venue du Seigneur, le don de prophétie. On a parlé suffisamment, semble-t-il, hier, de ce don de prophétie, du prophète qui, dans l'assemblée, fait valoir la parole de Dieu et communique
de la part de Dieu sa pensée dans des circonstances particulières à un moment donné. C'est la communication opportune dans l'assemblée de la pensée de Dieu. Voilà ce que fait un frère qui a été donné à l'assemblée, qui a été doué comme tel, comme prophète. Alors, au chapitre 20, au verset 20, nous avons le grand sujet de l'ordre qui convient à l'assemblée, de cet ordre qui doit être réalisé. Et veuille le Seigneur nous exercer tous, frères et sœurs, plus jeunes, moins jeunes à cet égard, avoir une notion très exacte de cet ordre qui convient à l'assemblée et par lequel notre Dieu est certainement honoré. Le chapitre se termine pratiquement sur ces mots que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, qu'il est un Dieu de paix. Ainsi l'apôtre commence ce second grand sujet du chapitre par cette exhortation « Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice. Soyez de petits enfants, mais dans vos entendements, soyez des hommes faits. » Puis au verset 21, nous avons une citation de la loi. Il est écrit dans la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Nous sommes donc exhortés à ne plus être des petits-enfants quant à nos entendements. C'est comme si l'apôtre disait aux frères de Corinthe, « Mais voyez, comprenez donc ce que je vous dis de la part du Seigneur. Je viens de vous parler du don des langues, du don de prophétie. Eh bien, comprenez maintenant l'importance qu'a le don des langues et l'importance qu'a le don de prophétie. Soyez donc des hommes faits dans vos entendements. Ne soyez pas des petits enfants. Comprenez ce que j'ai à vous dire de la part du Seigneur à cet égard. Autrement dit, comprenez l'importance immense du don de prophétie, de l'exercice d'un tel don pour le bien de l'assemblée. Ne soyez pas de petits enfants dans vos entendements, soyez des hommes faits, mais pour la malice, quand la chair veut se manifester, alors à cet égard, soyez de petits enfants. Soyez de petits enfants. Autrement dit, quant à l'intelligence spirituelle, soyez les hommes faits. Mais pour ce qui est de nos mauvais cœurs, si facilement malicieux, alors que nous sommes si facilement portés à la malice, soyons de petits enfants. Il y aurait d'autres passages des Épîtres à citer en rapport avec le fait de ne plus être de petits enfants. Nous ne voulons pas les rappeler maintenant, peut-être plus tard, mais nous ne voudrions pas être trop longs. Nous voudrions dire encore un mot sur la citation qui est faite de l'Ancien Testament dans le verset 21. Il est écrit dans la loi, « C'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Nous aimerions lire le texte lui-même, tiré du livre du prophète Ésaïe. Nous allons ouvrir nos Bibles et dans ce livre, et nous lirons ce verset du chapitre 28, Ésaïe 28. Ce sont donc les versets 11 et 12 du chapitre 28 du livre du prophète Ésaïe. Par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos, faites reposer celui qui est là, et c'est ici ce qui rafraîchit, mais ils n'ont pas voulu entendre. Dieu donc avait parlé à son peuple. Il y avait au milieu de ce peuple des hommes de Dieu, il y avait des prophètes en particulier. Dieu se servait d'eux pour leur parler et pour délivrer quel message ? Message de grâce, message parlant de bénédiction. Bénédiction se résumant en ces deux mots que nous aimons toujours entendre. D'une part, repos. D'autre part, rafraîchissement. Voilà ce qui était dans le cœur de Dieu pour ce peuple. Dieu n'avait que ce désir de parler de repos et de parler de rafraîchissement. Il n'avait que ce désir, faire reposer celui qui était là au milieu de son peuple, comme aussi rafraîchir celui qui avait soif. Voilà ce que je leur communiquais par mes prophètes. Mais ont-ils écouté? Ont-ils reçu le message de mes prophètes? Non. Alors, je me suis exprimé d'une autre manière, dit l'Éternel. J'ai suscité un prophète s'exprimant dans une langue étrangère. Il y a là, dans ce verset, comme un pressentiment de ce que serait au jour de l'Église naissante le don des langues. Peut-être seront-ils impressionnés par cela, des étrangers au milieu de ce peuple, venant à comprendre un prophète parlant dans la langue du pays où ils étaient nés. Alors peut-être que les enfants d'Israël seront frappés, ils seront impressionnés par une telle manifestation, mais non, ils n'ont pas voulu m'écouter, dit le Seigneur. Ils n'ont pas voulu m'écouter, dit le Seigneur. Ils n'ont pas écouté davantage que lorsque Dieu leur parlait de repos et de rafraîchissement. Dieu s'est servi d'une chose miraculeuse. Un prophète parlant dans une langue étrangère, les enfants du peuple d'Israël n'ont pas été plus attentifs à la voix de leur Dieu. Et l'apôtre Paul se sert de ce passage d'Ésaïe 28 pour montrer précisément que le don des langues, en fait, n'a pas été donné pour ceux qui croient, mais pour les incrédules. C'est un de ces dons signes, un de ces dons miracles, qui a été donné au début de l'Église pour accréditer le christianisme, pour fortifier, pour ainsi dire, l'instauration du christianisme, de l'Église, par conséquent, dans le monde. Nous voyons donc le lien qui existe entre ce passage d'Ésaïe 28, la citation qui nous en est faite en 1 Corinthiens 14, le lien existant avec tout l'enseignement de ce chapitre. Et en effet, dans le verset suivant, l'apôtre dit « De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe, non aux incrédules, mais à ceux qui croient. »
C'est donc en quelque sorte comme si l'apôtre disait « Si dans l'assemblée, comme telle, vous complaisez dans le don des langues, et si vous regardez cela comme quelque chose qui est particulièrement précieux, qui a une valeur particulière pour l'assemblée, vous vous méprenez entièrement. Et vous voulez prendre pour l'assemblée ce qui n'est pas pour elle, et ce qui est pour des incrédules. Et vous ne comprenez pas que ce qui avait été dit par le prophète à Israël, que ce don miraculeux et ce parler par des langues étrangères ne faisait que souligner, que faire ressortir qu'un jugement tombait sur ce peuple dans son ensemble à cause de son incrédulité. Et que c'était quelque chose d'humiliant pour ce peuple, et non pas quelque chose dont il dut se glorifier. Vous glorifiez du don des langues, c'est humiliant pour vous, assemblée de Dieu. Alors que Dieu veut vous parler clairement, nettement, et avec cet amour et cette vérité qui sont maintenant propres au christianisme, de repos, de rafraîchissement, comme cela est rappelé. On voit l'importance de la citation et la signification qu'elle a ici. Non pas que, encore une fois, que celui qui parla, qui parlait en langue, dit des choses incompréhensibles. Elles étaient peut-être incompréhensibles pour lui, d'ailleurs. Il semble bien qu'au moins dans certains cas, il en était ainsi, puisqu'il ne pouvait pas traduire, puisqu'il ne pouvait pas interpréter pour l'assemblée. Mais elles étaient compréhensibles pour qui comprenait la langue dans laquelle il parlait. Mais l'assemblée n'était pas édifiée tant que les choses en restaient là. Lui pouvait éprouver quelque édification dans le sentiment qu'il parlait à Dieu ou que Dieu parlait par lui, et qu'il était en relation avec Dieu, avec les choses divines, mais tout cela était non seulement sans utilité pour l'assemblée, si cela n'était pas interprété, mais était en fait à son détriment. Alors que Dieu voulait dire clairement, librement, par le Saint-Esprit, opérant par le don de prophétie, ces paroles qui seraient nourriture, donner ces eaux qui seraient une boisson rafraîchissante, tout cela était à la disposition de l'assemblée. Il fallait qu'elle laissât l'esprit dans sa pleine liberté.
Lis avec attention les deux circonstances extraordinaires telles qu'elles vous sont rapportées en acte 2 et acte 10. Circonstances au cours desquelles, par les langues distribuées comme un don signe, la présence de l'Esprit-Saint était rendu sensible. En acte 2, ceux sur qui le Saint-Esprit tombe, il apparaît sous la forme de langues divisées comme de feu, ils se mettent à énoncer dans des langues qu'ils sans doute ne leur étaient pas connues à eux-mêmes, le merveilleux évangile de la grâce de Dieu sur la base de l'œuvre du Christ. Et Pierre explique à ceux de ces Juifs qui s'étonnaient, qui osaient attribuer au vin doux ce qui était le fait de la présence et de la puissance de l'Esprit Saint dans ces ceux qui étaient ainsi baptisés en un et recevaient les dons signes, l'apôtre Pierre leur rappelle ce qui est dit en Joël. C'est ici ce qui doit vous convaincre et c'est ici ce qui doit vous ramener au Seigneur. C'est le thème, c'est la base plutôt de sa prédication en acte 2. On est frappé de voir que en acte 10, quand, après avoir ouvert par les clés du royaume des cieux, ouvert aux Juifs le chemin de la bénédiction par la foi en Jésus-Christ, usant des mêmes clés en présence de Corneille et de ceux qui étaient assemblés chez lui, voici que l'Esprit-Saint tombe sur eux. À peine l'Évangile leur est-il présenter que la foi qui était en eux et que le Saint-Esprit anime, approfondit. À peine le Saint-Esprit est-il entré dans ceux qui écoutent, que ces Juifs qui étaient venus et qui avaient accompagné, c'était des chrétiens, qui avaient accompagné Pierre, s'étonnent de les entendre parler en langue, le même don signe était donc la preuve de la présence du Saint-Esprit puissant pour faire annoncer l'évangile de la grâce, aussi bien en acte 2 qu'en acte 10. Et il y a là quelque chose qui vient confirmer ce passage d'Ésaïe dont il vient de nous être parlé. Non plus avec des langues bégayantes, des lèvres bégayantes, par une langue étrangère, il parlera à ce peuple, mais c'était la puissance même de l'Esprit Saint qui animait ceux qui étaient maintenant chargés de proclamer l'évangile de la grâce aux Juifs premièrement, et puis aux nations. Ce que les Juifs en ont fait, non seulement ils ont été indifférents, non seulement ils ont fermé leurs oreilles, bouché leurs oreilles quand le témoignage d'Étienne est rendu au milieu d'eux, mais ils ont été tout du long de cette étape de la formation de l'Église, les adversaires acharnés, et de Paul et de ceux qui prêchaient l'Évangile. C'est consternant de voir quelle est l'obstination du cœur naturel quand il se refuse à accepter les témoignages divins. Et de nos jours, où, pensant pouvoir accréditer à la manière d'autrefois un évangile dont certains prétendraient volontiers qu'il ressuscite, il y a là quelque chose de nouveau, ce sont les pluies abondantes, celles de la dernière saison, on anticipe, car il y aura ce travail de l'Esprit de Dieu quand l'Église aura été enlevée, mais on est saisi, on est confondu de voir comment le diable sait se servir d'une interprétation erronée, d'une application fautive, de passage de la parole. Et quand on est admis, comme cela est arrivé à plusieurs d'entre nous, quand on est admis à voir de près ce prétendu exercice du don des langues, quand on voit ce qu'il recouvre souvent de tromperie, de supercherie, de malice spirituelle, on est confondu de penser que parmi ceux qui connaissent déjà l'Évangile et qui devraient pouvoir le présenter dans sa fraîcheur et sa puissance, il se trouve des âmes simples qui se laissent prendre à de tels subterfuges. C'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Il faut que nous comprenions la chose et que nous l'acceptions comme telle, parce que, de fait, la chose est établie, et en tout cas, en ce qui concerne la bénédiction de l'Assemblée, sa prospérité, son affermissement de la foi, son enrichissement, son affermissement, eh bien, en ce qui concerne l'Assemblée, ces chers et pauvres Corinthiens justifiaient bien les craintes de l'apôtre et les exhortations qu'il leur adresse.
Il ne faut quand même pas perdre de vue que le don des langues était la manifestation d'une très grande grâce au début à l'égard des nations. Et qu'il montrait
que, à cet égard-là, l'événement de Babel, l'effet de circonstance de Babel, les effets étaient annulés. Et que Dieu s'occupait de toutes les nations auxquelles il voulait faire connaître la vérité de l'Évangile. Que les hommes aient abusé de cette puissance, s'en soit prévalu, cela ne nous surprend aucunement. Et si il y a eu des écarts, il y en a aussi de nos jours, dans ces mouvements qui se manifestent, nous ne perdons pas de vue non plus qu'il y a d'autres terrains sur lesquels l'ennemi travaille, et que la façon dont l'Écriture tout entière est traitée dans bien des milieux qui portent le nom de chrétien constitue un événement encore beaucoup plus grave que cet abus du don des langues. La façon dont on l'étudie, dont on la présente, dont on la tord, dont on la déforme, pour nous, grâce à Dieu, cette question du don des langues ne va pas loin. Nous avons à retenir ce qui est dit là, mais nous avons à, avec beaucoup plus de soin, à prendre garde à ce qui nous est dit du don du prophète, de l'existence et de l'exercice duquel dépend en grande partie la prospérité des rassemblements.
Câble, c'est que une chose à noter, mais qui est importante, c'est que on voit par ce chapitre que ceux qui ont reçu un don l'ont reçu une fois pour toutes. Ils sont responsables de l'employer. Et on a ici une mise en garde contre l'emploi hors de propos d'une puissance qui était réelle chez ces dons des langues, les porteurs de dons des langues. Seulement, ils ne l'exerçaient pas comme elle devait être. Mais il en va de même pour les autres dons et pour les dons relatifs au ministère de la parole et pour la prophétie et pour l'enseignement, prophète et docteur, quel que soit les dons et quel que soit degré, disons, connaissance ou de révélation, et c'est toujours le même esprit qui donne, et c'est sa puissance et qui est, on ose parler ainsi, mise en, j'allais dire entre les mains, mais dans des vases humains, dans des vaisseaux humains. Et il y a responsabilité pour ceux-là d'utiliser, d'exercer ce don à bon escient, et cela demande la dépendance, cela demande l'obéissance, un exercice continuel, de sorte et qu'il soit exercé avec intelligence, et, n'est-ce pas, chanteré par l'esprit, chanteré aussi avec l'intelligence, je prierai par l'esprit, je prierai avec l'intelligence. Tout cela se rapporte à des actions dans l'assemblée. Mais, la responsabilité de chacun à reconnaître d'abord ce qu'il a reçu et à l'exercer ensuite dans cette dépendance qui suppose alors une vie de communion, une vie intérieure passée avec le Seigneur. Et cela va très loin, cette pensée-là, n'est-ce pas, ou du moins ce fait-là. Le Seigneur, les dons, il procède de Dieu. Christ les a reçus, dans cela, dans le chapitre 4 des Éphésiens, et étant monté en haut, et il les donne, et le Saint-Esprit les distribue. Voilà ce que nous avons comme enseignement d'Écriture dans les deux passages de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, et le chapitre 12 de cette Épître aux Corinthiens. Nous avons déjà considéré cela. Nous pensons bien que le Seigneur Jésus, le Christ, d'un bout à l'autre de l'histoire de l'Assemblée sur la terre, toute l'histoire du christianisme, depuis la Pentecôte jusqu'au moment où l'Église sera enlevée et le Saint-Esprit quittera la terre avec elle, Christ n'aura pas un seul moment laisser manquer son Église de tous les dons dont elle avait besoin. Mais de quelle manière ont-ils été employés? De quelle manière, lorsqu'ils ont été employés à bon escient, ont-ils été reçus? C'est la responsabilité de l'Église tout entière, non pas seulement de quelques-uns rassemblés au nom du Seigneur, mais l'Église, c'est l'ensemble tous les chrétiens, de tous les croyants. Ne l'oublions pas. Et cela, dans tous les temps. Dans quelle manière chacun a-t-il gardé sa place et eu l'activité et l'action qu'il devait avoir? C'est là ce qui demeure sur notre conscience à nous maintenant, ce qui a été la responsabilité de tous tout au long de l'histoire. Mais à l'heure actuelle, il y a tous les dons nécessaires pour que l'Église tout entière fonctionne normalement. Mais combien de dons qui, tels les talents de la parabole, ont été cachés dans la terre, dans un linge? Et combien de services auxquels le Saint-Esprit demandait au sein de pourvoir, s'engager, n'ont pas été accomplis? Qu'en est-il de chacun de nous, frères et sœurs? Car le principe s'étend et évidemment, à toute la vie chrétienne, l'Assemblée est un tout.
Le passage, plutôt le Saint-Esprit, ne traite pas ici tous les sujets. Et comme toujours, il traite ce qui était à ce moment-là le plus en évidence à Corinthe. Mais la façon dont il le traite, les enseignements qu'il donne, sont applicables à d'autres faits, dans tous les temps. On peut très bien, par une action, l'exercice indépendant d'un don quel qu'il soit, porter le même dommage à l'Assemblée que le don des langues ainsi réalisé ici le faisait. Nous redisons aussi que l'Épître aux Corinthiens ne présente pas les dons pour l'Église jusqu'à la fin, comme l'Épître aux Éphésiens le fait, n'est-ce pas? Et l'Épître aux Éphésiens donne les dons fondamentaux. Les prophètes y sont en bonne place. Les évangélistes aussi d'ailleurs. Mais ici, il s'agit davantage des manifestations spirituelles, comme nous l'avons vu. Et c'est ce point-là
étant donné que les démons s'étaient manifestés parmi les païens, c'est ce point-là que l'Esprit traite ici, pour montrer de quelle manière le Saint-Esprit se manifesterait parmi les saints, anciens païens. Mais nous avons à tenir très grand compte du fait que sans imiter les égarements modernes qui se réclament de passages tels que celui-ci pour recouvrer en apparence le don des langues, nous avons à prendre garde aussi à ne pas nous laisser aller sur d'autres points et à veiller sur l'ordre dans l'Assemblée en tous les points, puisque c'est le sujet. Et à ce que la volonté d'un frère ou de plusieurs, ou l'esprit de parti, n'est-ce pas, ne se développe pas dans l'Assemblée, ce n'est plus de l'ordre. Là, c'était les langues. Parmi nous, ce danger est minime, sauf dans certains endroits, pour des causes que Dieu sait, ou dont on peut connaître quelques-unes, mais nous en avons d'autres, à propos desquels les enseignements généraux donnés ici sont constamment applicables. Et supposons que ce à quoi nous avons tous à veiller, n'est-ce pas, que dans l'Assemblée, il y ait une manifestation de d'activité dans les paroles, en parlant, beaucoup trop abondante, n'est-ce pas, d'ailleurs, le passage règle, ici, et limite, elle nous donne cette limite du nombre 3. Mais si nous ne veillons pas à ne pas déborder, dépasser la mesure qui est indiquée par le Seigneur au moment même, nous pouvons faire le même mal à l'Assemblée que le faisait l'emploi des dons des langues ici. Et la vie d'une Assemblée exige une position de qui vive à l'égard de tous les points, et d'une façon constante. Si l'orgueil s'empare d'un frère ou de plusieurs, ça n'est pas moins néfaste que le don d'élan, et encore davantage. Si un esprit autoritaire s'empare d'un frère ou d'un groupe de frères, ça n'est pas moins mauvais que ce qui est dit ici. Tout n'est pas dit, mais les conclusions morales données à propos de ces points-là sont applicables, et nous avons toujours le plus grand profit à le faire, sont applicables à toutes les difficultés qui peuvent surgir dans l'Assemblée, et des difficultés importantes en particulier. Si nous veillions à cela, bien des mots qui pointent seraient très vite arrêtés, ou bien même ne verraient pas le jour. Il ne faut pas nous tirer de ce passage en nous disant « Oh, les langues, oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. » D'accord, heureusement, encore. Mais ce qui est dit à ce sujet trouve constamment l'occasion de s'appliquer dans la vie de l'Assemblée, et en particulier à l'égard des frères et sœurs les plus responsables, car il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Existé dans les assemblées et ont existé dans les assemblées depuis un siècle, on en a vu, qui ne sont pas moins, et ils sont même davantage, étant donné la sphère dans laquelle ces mots se sont manifestés, mais ne sont plus encore plus condamnables que bien des mots que nous voyons dans la chrétienté autour de nous, mais qui n'a pas la même lumière. Encore une fois, rien au monde, n'équivaut au rassemblement tel que l'Écriture l'a dit. Rien ne peut le remplacer. Toutes les activités évangéliques du monde ne sont pas cela. Ce n'est pas leur objet. Et cela ne peut pas être leur objet. Toutes les activités qui peuvent amener des âmes à Christ, si elles ne le font pas en pensant au rassemblement du Seigneur, eh bien, ces activités sont marquées d'insuffisance, et ceux qui les réalisent sont coupables, à moins qu'ils soient ignorants ce qui peut arriver.
ce qui arrive certainement bien des fois. Mais il n'y a rien au monde qui soit remplacé par cela. Et s'écarter de cela volontairement, sciemment, c'est faire sa propre volonté, même au nom du Seigneur et même pour groupe. Et alors on groupe autour de plusieurs personnes ou autour de soi, ce qui est un très grand danger de nos jours. L'individu n'existe pas ici, le Seigneur seul est en relief. Et qu'il veuille faire qu'il soit tout lui seul en relief, en évidence, dans l'assemblée, et que chacun y veille dans les détails.
On est frappé de voir le développement que l'apôtre donne ici à ses instructions sur la réunion d'assemblée pour l'édification. Un long chapitre. Et il ne craint pas d'entrer dans les détails. Quelle importance donc a cette réunion, la réunion de l'assemblée pour l'édification? Et nous courbons la tête en constatant que peut-être de plus en plus les réunions d'édification sont négligées. Nous ne voudrions pas apparaître ici en censeur, mais comme facilement on pense avoir rempli son devoir de frère ou de sœur quand on a assisté à la réunion de culte et les réunions d'après-midi pour l'édification sont souvent beaucoup moins fréquentées que les autres. Certaines assemblées n'en ont même pas. C'est qu'il manque précisément cette faim de la parole de Dieu, cette faim de nourriture. C'est là précisément que la nourriture est dispensée au troupeau. Et que le Seigneur nous encourage à avoir toujours plus de zèle pour ce rassemblement-là, le rassemblement pour l'édification. Dans bien des assemblées, le nombre est restreint. Il y a, Dieu pourvoit toujours, un frère et peut-être un peu mieux qualifié pour la présentation de la parole. Et paresseusement, on lui laisse une charge complète. Cela est tout à fait en contradiction avec ce que nous trouvons ici, verset 26. Qu'est-ce donc, frère, quand vous vous réunissez, chacun de vous, à un psaume, à un enseignement, à une langue, à une révélation, à une interprétation? Sans doute, l'apôtre va s'appliquer à régler l'emploi, l'usage de telle suggestion de l'esprit dans l'ordre. Mais chez les Corinthiens, il y avait par l'activité de l'esprit une participation des frères. L'apôtre dit que vous prophétisiez tous un à un. Il peut, dans une assemblée, et surtout dans une assemblée peu nombreuse, combien il serait souhaitable que, dans sa mesure, chacun ait à cœur de participer à l'édification de l'ensemble. Il ne peut y avoir quelquefois que les saintes paroles dont l'apôtre parle, mais n'avons-nous pas éprouvé souvent, hélas non, pas souvent, mais quelquefois, que ces saintes paroles orienter tout le reste de la réunion. Il y a évidemment non seulement une paresse,
mais peut-être une timidité à vaincre. Eh bien, que le Seigneur nous encourage dans la pensée que c'est pour le bien de l'Assemblée, dans l'amour pour nos frères, que nous avons à ouvrir la bouche et que nous ne reculions pas devant ce à quoi le Seigneur nous appelle, sainte parole peut-être seulement. Ce n'est pas seulement par l'exercice du don de prophète que l'Assemblée s'édifie. L'indication d'un cantique à propos est d'une très grande importance. Rien ne devrait être fait autrement que sous la direction de l'Esprit, cela a été dit, on ne le répétera jamais assez. Et que nos réunions d'édification, au lieu d'avoir le cours un peu routinier que nous leur prêtons souvent, un cantique, une prière, et puis un discours, et puis la fin rituelle, comporte au contraire des exercices divers, plusieurs présentations successives de la parole, un ministère partagé et souvent très efficace, que l'exercice même du ministère soit coupé par un cantique, mais même une prière, une action de grâce. Et tout cela, bien sûr, non pas dans une recherche humaine de variété, mais dans une dépendance étroite de l'esprit.
Si tout le monde est exercé pour les réunions, pour qu'elles soient heureuses, on y viendra. Le Seigneur y conduira les siens. Quand des croyants se réunissent sur un autre pied, sur un autre terrain, ils peuvent être heureux, s'encourager, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la présence de Dieu réalisée comme cela et la présence du Seigneur. C'est ce qui fait que tout mouvement de dissidence, j'emploie le mot, est condamné. Parce que nous n'avons pas de terrain sur lequel nous pouvons être assurés d'avoir la bénédiction que Dieu a promise là, lorsqu'on est on est réunis autour du Seigneur et qu'on est dans la présence de Dieu. Un autre terrain, ce n'est pas cela. Et, ah voilà, une considération qui est importante, parce qu'il y en a des groupements indépendants, où l'on dit pourtant de bonnes choses, et où l'on dit, on présente la vérité, mais le terrain n'est pas le même, le Seigneur n'y a pas la même place. Notre devoir aussi, c'est non seulement de ne pas suivre de tels mouvements, mais le cas échéant de les dénoncer, et de prendre à leur égard l'attitude qui doit être prise. Et nous pouvons nous demander si nous le faisons toujours. Car si nous avons... Car si nous avons à cœur de faire face à ce que le Seigneur nous a demandé, nous sommes tenus, n'est-ce pas, de faire la différence entre cela et ce qui n'est pas cela, et sans esprit de supériorité, de jugement, non. C'est un devoir. Nous avons donc aussi à veiller davantage à ce que le rassemblement soit réalisé tel que l'Écriture l'indique, même sans esprit de dissidence,
qu'il y ait la dépendance suffisante en chacun, frère et sœur, pour que l'esprit ne soit pas attristé, et que l'ensemble des saints jouissent de la communion avec le Père, avec le Fils. Si chacun est heureux à la réunion, il n'aura pas soif et faim pour aller chercher ailleurs quelque chose qu'il n'a pas trouvé là.
Il est donc caractérisé, redisons-le encore, par ces deux grands faits, la présence du Seigneur d'une part, la présence personnelle du Seigneur exprimée par ces mots « Je suis là au milieu d'eux » et d'autre part, par l'action du Saint-Esprit dont nous avons à dépendre, tout frère et toute sœur, pas seulement un frère ou deux ou trois appelés à présenter la parole, mais tout frère, toute sœur devrait vivre davantage dans cette dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont là les deux grands faits qui caractérisent la réunion d'assemblée. Réunion d'assemblée qui nous semble être une expression scripturaire, puisqu'il nous est dit ici, quand vous vous réunissez ensemble, ou quand l'assemblée se réunit tout entière, ou comme il est dit au chapitre 11, quand vous vous réunissez en assemblée. La réunion d'assemblée est donc une expression scripturaire caractérisée par ces deux faits, et quant à l'action même au milieu de l'assemblée, est-ce que dans les temps auxquels nous sommes parvenus, ne devons-nous pas nous attacher plus que jamais à l'une des toutes dernières exhortations de l'apôtre Paul, 2 Timothée 4, prêche la parole. Dans l'assemblée, au point de vue, disons, action, point de vue présentation de la parole, ce que nous avons à faire, c'est prêcher la parole. Nous disons cela parce que nous pouvons courir ce danger, l'un ou l'autre, d'être amené à parler de soi-même, à parler de ses expériences, peut-être de ce que l'on a fait, du fruit produit, de ce que l'on a pu faire. Tout cela n'a pas sa place dans l'assemblée, et en particulier dans la réunion d'assemblée. L'apôtre nous donne, dans l'une de ses toutes dernières exhortations, celle-ci, prêche la parole, et nous devons nous attacher à cela, et d'une façon particulière quand il s'agit de la réunion d'édification, comme nous l'avons ici.
Il faudrait peut-être énumérer quelles sont les réunions d'édification, non ?
L'Assemblée se réunit comme telle, comme il vient d'être rappelé, pour le culte. Elle est appelée alors à offrir au Seigneur, à offrir à Dieu l'adoration. Et associée normalement au culte, ce qui en est la base, la commémoration de la mort du Seigneur, la scène. L'assemblée se réunit comme telle pour la prière, pour demander à Dieu. Et l'assemblée se réunit comme telle pour recevoir et de Dieu, comme cela vient d'être rappelé, et le Saint-Esprit dispose alors de tous les instruments qu'il a qualifiés, préparés lui-même, et il donne à chacun ce qui est nécessaire pour le bien de l'ensemble, et intervient alors notre responsabilité personnelle, soit pour donner de la part du Seigneur, soit pour recevoir ce qu'il nous donne. Et de toute manière, tous étant là, exercés dans la présence de Dieu ayant ce sentiment à la fois de la présence personnelle du Seigneur Jésus au milieu des quelques-uns rassemblés et de la présence effective du Saint-Esprit agissant. Or, là où est l'Esprit, il y a la liberté. C'est dans la liberté de l'Esprit que les choses doivent se passer. Or, cette liberté, on peut en abuser. C'est ce que faisaient ces Corinthiens. Ils étaient abondamment pourvus de dons de grâce, comme nous le trouvons au tout début de l'Épître. Ils ne manquaient d'aucun don de grâce, et ils étaient pressés de les manifester. Et ils le faisaient. Et ils sortaient de leur place, et ils parlaient tous ensemble, et c'était une agitation telle, particulièrement lorsque s'exerçait tout à la fois un grand nombre de dons, et dons des langues en particulier, que ceux qui entraient disaient « mais ils sont fous ». Alors que l'ordre caractérise, l'ordre est un des traits de la maison de Dieu, doit la caractériser. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais si la liberté a ainsi ses abus, et cela n'est qu'une application particulière du fait très général que et nous avons ailleurs dans l'Épître aux Galates, n'est-ce pas, qui ont été placés dans la liberté, mais prenez garde de ne pas user de la liberté pour donner licence à la chair. Ici, c'est un peu la même chose. La liberté est là, mais ils en abusaient. L'autre écueil, c'est que nous n'usions pas de cette liberté. Et c'est la routine, c'est la passivité, c'est ce qui vient d'être dénoncé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons la timidité, qui est souvent une des formes de l'orgueil, de l'amour propre. Il y a une hardiesse dans l'Esprit Saint qui devrait nous caractériser davantage. Ces deux dangers sont évités lorsque, et en particulier le premier, l'abus de la liberté et le désordre, sont évités lorsque, eh bien, on remplace l'Esprit Saint par une organisation humaine. Et il n'est pas nécessaire que tout le monde soit bien exercé quand toute la responsabilité repose sur quelqu'un, un seul, officiellement consacré. Ça n'a rien à voir avec une consécration humaine et un ministère unique, un ministère particulier qui est censé avoir reçu plusieurs dons, plusieurs charges, sinon tous les dons et toutes les charges nécessaires au moment, et qui est responsable de tout un troupeau. Comment pas cela dans la parole. Nous avons ce chapitre nous présente, une assemblée réunie sous le regard de Dieu, dans la présence du Seigneur et le Saint-Esprit agissant au milieu d'elle. Voilà ce que la grâce de Dieu a permis dans les temps auxquels nous sommes parvenus, effectivement, et cela a été l'un des grands résultats, l'un des biens précieux qui se sont trouvés attachés au réveil d'il y a un siècle et demi. Et les premières réunions de chrétien en dehors de toute organisation et tout système humain ont été marqués par une bénédiction extraordinaire et, plus simplement, par une proximité exceptionnelle des quelques-uns qui étaient là avec la personne du Seigneur. Et nous n'avons qu'à continuer dans le même sens. Mais c'est l'enseignement de la parole, c'est l'enseignement des premiers temps. Les dangers sont là et ils viennent d'être relevés l'un et l'autre. Je voudrais seulement ajouter ceci en rapport à ce qui vient d'être résumé. C'est que, et cela ressort de tout ce qui a été dit, mais je crois qu'il est bon de l'exprimer, avoir reçu quelque chose du Seigneur, et chacun a reçu quelque chose. Ici, de manière toute particulière, avoir un don spécial. Et qu'il soit d'enseignement, qu'il soit de prophétie, qu'il soit autre, ne comporte pas l'exercice de ce don d'une manière impulsive sous l'effet d'une action irrésistible, momentanée de l'esprit, comme une mécanique que l'on qui se met en mouvement. C'est un ressort qui est détendu. L'esprit n'agit pas de la sorte. Ce que nous voyons, ce qui ressort particulièrement du paragraphe 26 à 33 de notre chapitre, c'est que les vases, les instruments dont l'Esprit de Dieu se sert ne sont pas des instruments inertes. Ils sont des instruments vivants, avec leurs responsabilités particulières, liées comme toujours à quelque chose de vivant, ou à un être vivant. Et c'est pourquoi il peut être dit, les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Personne ne peut dire, oh, je ne peux pas faire autrement que de parler, je suis mu par une puissance irrésistible, l'esprit me commande de faire ceci ou de faire cela. Les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Et c'est ainsi que l'ordre peut être maintenu dans l'assemblée de Dieu. M'écarte un peu de la question qui avait été posée tout à l'heure quant à l'assemblée réunis comme tels, mais nous avons là des caractères de la réunion d'édification qui sont évidents d'après le chapitre que nous étudions.
Il y a deux points sur ce qui vient d'être dit. L'esprit des prophètes sont assujettis aux prophètes, c'est-à-dire l'esprit de chaque prophète est assujetti au prophète, à ce prophète-là. Autrement dit, il est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il dit.
Et puis devant l'Assemblée.
Et devant l'Assemblée et devant Dieu. Autrement dit encore, au-dessus de la puissance de l'esprit faisant agir un prophète, quelqu'un, il y a la puissance morale de l'esprit agissant en celui-là pour que ce contrôle soit exercé. On a comparé cela à un engin. Un véhicule moderne, par exemple, il y a la puissance dans le véhicule, mais il y a celui qui conduit et qui contrôle l'exercice de cette puissance. C'est une image de la façon dont un prophète ou un serviteur en général, par le Saint-Esprit, peut se contrôler lui-même et sentir sa responsabilité. S'il dit des sottises, il n'aura pas d'excuse. En second lieu, il a non seulement affaire à lui-même devant le Seigneur, mais il a affaire aux autres. Les autres jugent, les autres
On a voulu dire, quand le prophète parle, les autres prophètes jugent, mais pas du tout. C'est pas les autres prophètes. Ceux qui disaient cela auraient été très contents qu'il y eût un corps de prophètes à part du reste de l'assemblée. Toujours l'esprit clérical qui perce dans ce misérable cœur de l'homme. Celui qui a ainsi exercé son ministère, les autres jugent, c'est l'ensemble de l'assemblée qui juge. Je voulais encore faire une autre remarque à un autre point de vue, au point de vue des réunions d'assemblée, dont on se demande bien comment ceux des groupes de chrétiens qui se forment, en ignorant ce que nous lisons là, ou en voulant l'ignorer, on se demande comment ils peuvent vivre. Dieu répond à la fois partout où elle est, bien entendu. Mais s'il y a des faiblesses et des désordres parmi nous, on peut bien penser qu'il ne manque pas non plus dans ces milieux-là, et que la structure n'a sûrement pas la solidité de ce qui est produit, qui est réalisé selon ce que l'Écriture dit. Mais encore une fois, et j'irai dire encore ceci, c'est que nous sommes responsables dans les assemblées, nous sommes responsables, le cas échéant, de bien mettre en évidence le caractère fautif de ceux qui créent des dissidences ou de ceux qui en ont créé, et de ne pas rester là dans une position équivoque. Nous nous rendrions complices. Enfin, on a parlé de trois sortes de réunions d'assemblée, et il me semble qu'il y en a une quatrième. Et c'est la réunion d'assemblée pour lier et délier. C'est en assemblée que l'assemblée lit et délit, au nom du Seigneur. Et elle a une réunion, elle se réunit exprès pour cela. Ce ne sont pas les frères, des frères pour un cas d'admission ou d'exclusion, ou un autre problème. Des frères sont évidemment certains, pas toujours nécessairement les mêmes, appelés à étudier un cas, sans qu'ils soient conduits à révéler tout ce qu'ils auront appris sur le cas. Ce n'est pas, en général, nécessaire, le principe, en donner le moins possible, mais toutefois, faire connaître à l'Assemblée, d'abord aux frères, et ensuite à l'Assemblée, tout ce qui sera nécessaire pour que la conscience de l'Assemblée soit apaisée. Dans la mesure où la conscience de l'Assemblée descend dans l'Assemblée, a été blessée, il faut que l'apaisement soit apporté en rapport avec cela. Un groupe de frères n'est rien dans l'affaire, sauf encore une fois pour instruire. Mais une fois que ce travail est fait, il n'y a pas de groupe de frères. Il n'y a pas un frère, pas plusieurs frères. Il n'y a pas d'autorité personnelle. Dans l'Assemblée, il n'y a aucune autorité personnelle, sauf l'autorité morale et spirituelle, qui est l'autorité que le Seigneur donne à un frère et, dans sa mesure, à une sœur, et quelquefois celle d'une sœur peut être très grande. Mais ensuite, après l'examen de la question, la communication à toute l'Assemblée réunie pour cela, pour la question, l'Assemblée tout entière doit avoir le temps de réflexion nécessaire pour conclure, et la conclusion de l'Assemblée étant donné par l'Assemblée, il y a une réunion d'Assemblée spéciale pour conclure sur le cas, n'est-ce pas, pour un retranchement, une admission ou un autre cas. Et on le fait au nom du Seigneur, avec le sentiment recherché particulièrement de sa présence, et les personnes elles-mêmes, s'effaçant devant ce fait majeur.
Dans cette assemblée, qu'est le moins, sans doute, le moins réalisé la présence du Seigneur. C'est là qu'on se permet toutes sortes de réflexions. On ne réalise pas que le Seigneur est là, dans l'assemblée d'administration.
Je voudrais préciser. Lorsque les frères sont réunis pour étudier un cas, ils ne sont pas l'assemblée. Alors il y a place là à des échanges de vues, de pensées. Au contraire, c'est tout à fait nécessaire, en demandant au Seigneur qu'il nous garde dans la retenue indispensable. Il contrôle chacun de soi-même. Mais ce n'est pas là la réunion d'assemblée. La réunion d'assemblée, c'est celle qui est réalisée lorsque l'assemblée tout entière ayant été informée et ayant eu le temps de conclure. L'assemblée se réunit tout entière exprès pour officiellement, extérieurement, prononcer au nom du Seigneur, c'est un frère qui le fait, prononcer au nom du Seigneur, par exemple, une admission ou une exclusion. C'est là, proprement, la réunion de l'assemblée. Plus de raison que nous ne le croyons. Les plus, les meilleurs ont toujours pris garde avec le plus grand soin à ne pas laisser leur autorité personnelle jouer d'une façon indépendante de la présence du Seigneur et indépendante de l'Assemblée. Là se rattache au fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Redisons-le, l'ordre en toute chose, c'est la volonté de Dieu et rien d'autre.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Combien on est heureux de lire cela. C'est à cela que tout doit tendre dans l'Assemblée, dans la vie de l'Assemblée. La vie de l'Assemblée qui a son expression dans les rassemblements, mais qui, dans les réunions, et spécialement dans celles qui viennent d'être rappelées, mais qui suppose que ceux qui se rassemblent là ne considère pas que toute la vie chrétienne consiste à venir à des réunions. Et que il n'y a pas un moment de notre vie qui ne doit être, dans le particulier, dans la vie personnelle, la recherche de cette réalité de la communion avec le Seigneur qu'ensuite nous pourrons réaliser ensemble lorsque l'Assemblée se réunit. Mais alors que toute chose se fasse pour l'édification. C'est la réunion d'édification qui est là placée devant nous et tout doit s'y dérouler dans l'amour. Il est à la base même de l'édification. Avec ordre et bienséance, que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre, c'est le dernier mot de notre chapitre.
Nous n'avons pas à nous tourmenter trop quant à la réalisation de ces réunions-là. Le Saint-Esprit s'en chargera si nous savons nous attendre à lui. Et lui demander qu'il agisse dans l'assemblée en chacun, dans chaque réunion, n'est-ce pas, qu'il agisse, eh bien, nous verrons des choses très précieuses. Il sera employé un frère pour dire 5 paroles, un autre pour en dire 40, et etc. Lui-même produira ce qui sera nécessaire pour l'édification de tous, et au-dessus de tout cela, il fera jouir de la présence de Dieu, ce qui est le terme suprême de tous les services, toutes les activités pour la bénédiction des saints.
Pourrions chanter un cantique, la réunion d'édification type, si on peut parler ainsi, normal. Plusieurs peuvent se poser quelques questions à ce sujet. Nous voyons ici la réunion d'assemblée comme telle, recevant du Saint-Esprit par le moyen de qui il voudra se servir. Mais une réunion pour l'étude de la parole, une réunion telle que celle qui nous rassemble en ce moment, est-ce que nous l'écarterions la catégorie de réunion d'assemblée pour l'édification? Pour ma part, je n'oserais pas, moyennant que la pleine liberté de l'esprit y soit et que chacun y apporte ce que le Seigneur lui a donné. Mais j'aimerais avoir la pensée d'autres frères sur la question. C'est évidemment quelque chose de distinct de la réunion de l'Assemblée comme telle que on a parlé tout au long cet après-midi. Mais c'est bien pour l'édification et pour recevoir du Seigneur que nous sommes rassemblés là. Et quand l'Assemblée se réunit pour recevoir le ministère d'un frère envoyé par le Seigneur, d'un serviteur reconnu du Seigneur et qui exerce son don, je pense que personne ne voudrait dire que le Seigneur est absent d'une telle réunion. Comme disait souvent un frère que beaucoup d'entre nous ont connu ici et dont le souvenir est resté bien vivant, si le Seigneur n'est pas dans une réunion, gardez-vous d'y aller.
Dans la réunion d'assemblée pour le culte, on vient apporter, on apporte à Dieu l'hommage qui lui revient. Et la substance même de cet hommage, c'est la personne du Fils de son amour. Dans la réunion de prière, nous venons pour demander, sans bien entendu qu'à l'action de grâce en soit exclue. Et dans la réunion d'édification, nous venons pour recevoir. La réunion d'édification est réalisée dans une localité. L'assemblée locale se réunit pour cela, pour l'édification, pour recevoir. Or, cet après-midi, il n'est pas question d'une assemblée locale, mais il est question de frères et de sœurs venant de nombreuses assemblées locales, et ils viennent, somme toute, pour le même but. Ils viennent pour recevoir. Nous sommes là pour être édifiés. Nous aurions de la peine à ne pas discerner, dans un tel rassemblement que celui d'aujourd'hui, une réunion d'assemblée.
D'autant qu'elle a été convoquée, pouvons-nous dire, par une assemblée locale en accord avec les assemblées voisines.
De souligner la signification exacte du petit mot « parmi » que nous avons à la fin du verset 5, dans cette déclaration remarquable, extraordinaire, que fait l'homme simple ou que fait l'incrédule quand il entend le prophète exercer son don de la part du Seigneur. Ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous ou en vous. Il n'y a pas seulement la pensée de Dieu qui est là parmi vous, mais il y a aussi la pensée de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu agissant en nous. Combien il importe que nous laissions pratiquement agir cet Esprit de Dieu en nous, parmi vous et en nous.
On comprendra peut-être plus aisément la pensée qui vient d'être exprimée, ou plutôt on peut en souligner la portée en rapprochant ce que nous avons en Colossiens 1, verset 27, quand il est dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est la même expression. Christ parmi vous et en vous. C'est exactement la même expression. Non seulement au milieu de vous, parmi vous, mais en vous, et par son esprit, en chacun, comme dans l'ensemble. Et bien de même ici, c'est Dieu parmi vous.
On a dit en effet à cet égard que le « en » peut employer « en » et ça peut représenter les individus, mais l'ensemble aussi comme corps.
Oui. C'est pourquoi il y a
l'unité.
N, voilà, c'est ça. Parmi oui. Et en.
Nous devrions bénir Dieu tous les jours de notre vie de ce qu'il nous accorde ces choses-là, alors que nous avons tant de fois mérité qu'il nous les retire. Cette réunion, une assemblée autour de Christ, quelque chose de, évidemment, incomparable. Il devrait y avoir du sérieux aussi. Ce qui gêne le Saint-Esprit, c'est le manque de sérieux, la mondanité. Et il est évident que le témoignage serait autre si nous appliquions, sans effort, par amour pour lui, à venir là, en nous appliquant un comportement qui lui serait agréable. Ce serait là une preuve de l'amour pour lui. Une bonne preuve, une vraie.
L'apôtre Paul a eu besoin d'en référer sans cesse à Dieu, son Dieu, comme celui qui est le Dieu de paix. Il est très remarquable de voir comme cette expression jalonne ses enseignements depuis la première, l'épître aux Romains, jusqu'à la dernière, l'épître aux Hébreux. Le Dieu de paix, dans l'épître aux Romains, deux fois, dans notre épître, dans la deuxième épître aux Corinthiens, etc. À cette occasion, l'apôtre Paul fait appel à celui qui est le Dieu de paix. Et l'on sent, en relisant ces passages, comme c'était un besoin ardent de son cœur d'avoir affaire à ce Dieu et de pouvoir s'en remettre. En pensant aux circonstances que traversaient les assemblées, comme à Corinthe par exemple, de pouvoir s'en remettre au Dieu de paix. Et dans notre passage, il le dit une fois encore que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est un des titres de gloire qui appartient à notre Dieu. Il est le Dieu de paix. Et quand l'apôtre parle de Satan brisé sous nos pieds, c'est encore du Dieu de paix qu'il parle. Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix est une expression qui remplit nos cœurs, effectivement, de paix et en même temps d'assurance et de confiance, tandis que nous regardons vers l'avenir en attendant le retour du Seigneur, tandis que nous pensons à son assemblée et à son témoignage dans ce monde. Nous sommes, malgré tout, remplis de paix, regardant avec confiance à lui et en attendant le retour du Seigneur.